LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Rosita, je suis auxiliaire de vie.
Elle s'appelle Rosita et travaille comme auxiliaire de vie. Elle a entendu le président Emmanuel Macron dire « On ne touche pas aux personnes proches de la retraite ».
Eh bien si, il menace de me radier.
À 6h45, elle part au travail, récupère son fils le soir pour le faire dîner, le mettre en pyjama, et puis elle repart pour la nuit.
L'assistante sociale s'en est inquiétée, et puis je me suis expliquée avec elle et ça a été.
Le conseil départemental a réduit son temps de travail, 30 minutes par personne, pour enfiler des bas de contention, laver, aspirer une trachéo. Elle n'a pas tenu.
J'ai pas tenu. Invalidité, deuxième catégorie. Je m'appelle Rosita.
La série documentaire Ciel, ma retraite. Quatrième épisode. À quoi bon travailler ? Une plongée dans les archives sonores de l'INA. Franck Lilin, Nejma Bouakra. Élodie Vincent incarne Rosita, voix chorale des premiers de corvée et des derniers de cordée.
Je reprends du service comme auxiliaire. La conseillère de Pôle emploi m'a dit « Vous avez intérêt à y être au rendez-vous. C'est pas les radiations qui manquent. Plus de 40% sur un an. Ils vont me donner 8 heures par semaine, 2 heures par jour. Et si tout va bien, je serai à la retraite le 1er mars.
Pour elle, comme pour d'autres, une entrée en retraite qui s'étire comme une queue de comète. Plus on s'en approche, plus elle s'éloigne. La contre-réforme des retraites s'est concrétisée là, au carrefour des années 80. Jacques Chirac décide en 1987 d'indexer les retraites non plus sur les salaires, mais sur les prix. Et puis, 1993, durant l'été, les salariés du privé passent de 37 ans et demi à 40 ans de durée de cotisation. Leur pension n'est plus calculée sur les 10 dernières années, mais sur les 25 dernières années. Des mesures qui produisent une diminution de 36% de leur retraite. La rupture entre retraités du privé et du public est consommée et la rancœur alimentée pour de longues années. Même si, 10 ans plus tard, les fonctionnaires verront également s'allonger leur durée de cotisation. 1995, le plan Juppé et les régimes spéciaux.
Ce matin, une intervention du Premier ministre en direct de Matignon, une deuxième allocution après déjà 2 semaines de grève et de manifestations.
5 décembre 1995, Alain Juppé.
Chers compatriotes, j'ai souhaité ce soir vous parler personnellement. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement. Il faut en sortir. Il faut en sortir d'urgence. Certains formulent des exigences. Ils disent... Le préalable à toute discussion, c'est que le gouvernement retire son plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale. Eh bien, je veux vous parler les yeux dans les yeux. Je ne retirerai pas le plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale parce que ce serait une erreur, et je dirais même une faute, que de le faire.
Certes, la réforme sur les régimes spéciaux a été revue et corrigée. Mais la réforme institutionnelle de grande envergure prévue dans le plan Juppé, elle est bien passée, sans que tout à chacun puisse mesurer la portée, par exemple, de la loi de financement de la sécurité sociale. La sécurité sociale n'est plus une assurance collective, selon les principes du Conseil national de la Résistance, que chacun cotise selon ses moyens et reçoive selon ses besoins. Non, elle n'est plus un bien, une grande collecte mutualisée. Non, la retraite est devenue un problème. Allez, au boulot. Les pieds sur terre, 2010.
Alors là, on est dans une grande surface de l'Île-de-France. On est au rayon 20 et oui. On est avec Roland, qui a 71 ans et qui est en plein travail.
On est animateur de vente, donc on s'occupe de donner des prix de réduction sur les whiskies, sur la vodka, sur les bouteilles, sur tous les spiritueux, quoi. Je fais à peu près beaucoup de magasins, parce que c'est les fêtes de fin d'année, puis après, bon, c'est le calme. On court après le boulot, quoi. C'est par à coup, tout est par à coup. Malheureusement, c'est comme ça, et on ne peut pas faire autrement, quoi. C'est assez dommage. On est obligé de travailler, parce que vous savez que nos retraites sont quand même très faibles.
Hein. Vous, votre retraite, elle est de combien ?
Oh là là, on fait même pas 600 euros par mois. Alors, vous voyez qu'on est obligé de travailler comme des bêtes, hein. Parce que quand moi j'étais jeune, les gars, vous avez des gens, ils vous ont pas déclaré.
Et vous saviez pas que vous étiez pas déclaré?
Ben, vous pouvez pas le savoir, parce qu'aujourd'hui, votre retraite, c'est une feuille 21-29-7, c'est un journal. Nous, à l'époque, vous avez, au moins quand j'ai commencé à bosser, c'était une petite bande comme ça de papier. Il y avait trois petits trucs dessus, c'était tout. On savait pas, bon, on paye la retraite, bon, puis on voyait rien. Les entreprises vous disaient rien à l'époque. On parlait pas de retraite comme aujourd'hui. Et ce qui fait que vous arrivez, oh bah tiens, il vous manque 20 trimestres. Pour 20 trimestres, aujourd'hui, vous dites, attendez, la retraite minimum, c'est 1300 euros par mois. Bon, pour 20 trimestres, c'est quoi dans une vie? C'est 5 ans. 5 ans. On vous fout toute la retraite en l'air. Il y a un problème. Bonjour, madame. Vous voulez une bonne bouteille? 23 euros 60, et je vous fais un cadeau de moins 2 euros. Voilà, donc c'est des bouteilles. Vous voyez, vous avez une bouteille métal qui est très belle. Hein. Voilà, madame. Merci beaucoup. Bonne journée.
Là-bas, si j'y suis, 2010, Bernard Friot.
En aucun cas, il s'agit que nous travaillions davantage, au plus longtemps. Depuis 1993, hein, où les mesures d'augmentation des durées de cotisation sont censées pousser les gens à travailler plus longtemps, nous avons 17 ans de statistiques, il n'y a pas de prolongement de la durée d'activité. La cessation d'activité se fait toujours actuellement à moins de 59 ans, on est à 58 ans et 9 mois. Il y a déjà, en moyenne, près de 3 ans de no man's land, où on n'est ni sur un salaire normal dans un emploi normal, ni retraité. Ça veut dire que, n'étant ni en retraite, ni dans un emploi normal, qu'est-ce qui va se passer? Et on a déjà la petite musique. C'est déjà une des mesures, d'ailleurs, préconisées par le gouvernement. Ah, mais il faut sauver cet emploi des seniors. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire des emplois aidés. Les employeurs qui embaucheront un senior n'auront pas de cotisation sociale à payer pendant un an. Qu'est-ce qu'on nous refait, là? On nous fait le coup des jeunes. Avec le même résultat. À quoi sert une population qui est définie par une caractéristique biographique, l'âge, le genre, la nationalité, comme catégorie de l'action publique? Eh bien, elle sert d'instrument de pression à la baisse sur les droits de tous. Imaginez qu'on ait créé des emplois femmes. C'est dire à quel point on avait naturalisé une génération. Et on est en train de nous refaire le coup en inventant des vieux. Donc, il s'agit d'inventer en permanence. Si on veut faire une pression à la baisse sur les salaires, ce qui est central dans le capitalisme, hein, eh bien, il faut en permanence qu'il y ait des réserves de manœuvre. Et actuellement, on est en train de créer, après la réserve jeune, on est en train de créer une réserve de manœuvre. Ce sera les vieux, surtout des vieilles femmes d'ailleurs, entre 59 et 67 ans, ou 66 ans.
Qui seront obligés d'accepter n'importe quoi.
Qui accepteront n'importe quoi.
À n'importe quel coût.
Qui seront dans une situation de compétition avec des salariés dans des emplois normalement payés.
Ils sont partis du sud pour rejoindre le nord d'un autre pays, la France. L'itinéraire de 78 000 Marocains entre 1956 et 1977, une véritable armée levée par un homme, Félix Mora, chargé d'une mission de recrutement par les Houillères du Nord-Pas-de-Calais.
J'ai au moins regardé dans le blanc des yeux 1 million d'ouvriers marocains, 1 million de candidats, pardon, hein, puisqu'il m'est arrivé sur la fin d'embaucher le père et d'embaucher le fils. Le garçon qui se présentait, ben c'était du muscle, hein, puisqu'il n'y avait pas d'identité, il n'y avait pas d'entretien, ce n'était pas le but recherché, c'était du muscle.
Ma mère les a vus s'installer pas loin de la fosse 4, 5 et 13, du côté de Salomine, là, les Marocains. Pas dans la brique, non, dans des baraquements. Ils sont venus pour les tout derniers filons, les plus profonds et les plus risqués. Les mines allaient fermer. mais d'office, ils ont été employés pour creuser les couloirs et l'abattage du minerai. Là où tu chopes la silicose à coup sûr. Et tout ça, sans le statut du mineur.
1987, Salomine, assemblée de travailleurs marocains. France 3 Nord, Pas-de-Calais.
Pour ceux qui veulent partir, le plan PACHE propose l'aide au retour, la prise en compte des droits à la retraite, mais aussi la prise en charge par la France des soins aux silicosés. Pour les mineurs qui retourneraient au Maroc, reste évidemment à en définir les modalités.
C'est un élément nouveau, mais je veux dire, comme nous on demande déjà le statut du mineur, étant donné qu'on s'est battu pour avoir le statut du mineur, et maintenant, ils veulent le casser avec le plan social, donc...
De septembre 86 à septembre 87, les effectifs ont été réduits au charbonnage de France de 5 225 personnes. Le même rythme va être poursuivi jusqu'en 1991, ce qui devrait amener les effectifs à la moitié de leur quantité actuelle, soit 20 000 personnes.
1992, France 3, Nord-Pas-de-Calais.
Ici, à Fresnes-sur-Escaut, c'est tout ce qu'il reste de la cité Soult, démolie il y a quelques mois et qui abritait plusieurs centaines de travailleurs marocains. Brahim El Awad, lui, a refusé de partir. Licencié en 89, après un essai de conversion raté, il ne touche plus rien et vit sans eau ni électricité. Il demande aujourd'hui à bénéficier du congé charbonnier, versé par les houillères sous certaines conditions, jusqu'à 55 ans, l'âge de la retraite.
J'ai réclamé mon prêt de la retraite comme tout le monde, et moi, mes eaux comme tout le monde. Il m'a posé un logement, mais il faut que je paye à peu près 1000 francs. Où est-ce que je vais le trouver? Je n'ai même pas trouvé un morceau de pain. Qu'est-ce que je vais manger?
...2010, la lutte des mineurs marocains. Les pieds sur terre.
Les mineurs sont dans la rue.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous avez appelé votre prénom?
Jamel.
Vous avez quel âge?
J'ai 28 ans. Je suis le fils d'un des mineurs marocains qui aujourd'hui réclame son dû, tout simplement. Alors le papa, c'est une personne qui s'appelle Hassan et qui a fait 20 ans dans le fond. Il n'a jamais voulu nous ennuyer, à nous dire, ouais, voilà, lorsqu'il y a des mois où il y a 600 euros de loyer, plus l'EDF, plus le gaz, qu'il ne s'en sortait pas, quoi, il est resté zéro. Il ne nous a jamais montré, et ces derniers temps, bon, depuis qu'il y a la retraite, avec 900 euros, c'est un peu dur, et là, c'est là où on a pris compte du dégât que ça allait faire, sachant que je vous dis que mon père, c'est l'un des privilégiés, 900 euros, c'est une carrière un peu... bon, voilà, il a fait 40 ans de travail, mais il y a des personnes ici qui touchent 600 euros, quoi. Et 80% des gens qui sont ici touchent 600 euros avec des loyers à 400-500 euros. Je vous laisse imaginer un peu dans la détresse. Et ces parents-là, ils ont une dignité, ils n'ont jamais voulu demander de l'aide. Et là, ils nous demandent un peu de l'aide, entre guillemets, et c'est pour ça qu'on les accompagne, tout simplement.
Pénibilité. Tout le monde comprend, non? La peine au boulot. Je lis dans la brochure... Le départ anticipé pour incapacité permanente permet de demander la retraite avant l'âge légal et de bénéficier du taux plein. Vous pouvez bénéficier du départ anticipé à 60 ans au taux plein si votre incapacité est consécutive à une maladie professionnelle ou bien à un accident du travail qui a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle et que vous avez été exposé pendant 68 trimestres à un ou plusieurs facteurs de risque professionnels qui ont entraîné cette incapacité. Dans le texte, c'est simple. Dans la vie, moins. Quand on prend le boulot qu'il y a et qu'on en change tout le temps, encore moins. Moi, j'ai été sur les ronds-points avec les gilets jaunes. Eh bien, les accidentés de la vie au travail, on se reconnaissait de suite.
2007, intérim, les pieds sur terre.
Je travaille dans le coffrage glissant. Et il y a eu. En fait, je ne sais pas ce qui s'est concrètement passé parce que j'ai été bloqué entre le tapis et la vis. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est une fausse manipulation ou si c'est le bouton qui a bloqué. Et dans l'urgence qui se présentait. Je ne pouvais pas exactement savoir ce qui s'est passé. Ce qui était important pour moi, c'était que je me dégage entre cet étau qui se serrait.
Ok. Alors, par contre, ce qu'il faut, c'est envoyer ça à l'adresse que j'ai marquée en caisse de maladie. À Pontoise, c'est la bonne. S'il faut le renvoyer à l'hôpital.
Salut Gaï, ça va?
Bon, merci.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a eu d'abord, on décide de critères, ensuite on fixe des seuils. Et ce qui est apparu ensuite avec les ordonnances Macron, c'est qu'on a supprimé un certain nombre de critères. Donc il y a 4 critères qui ont été supprimés du compte pénibilité qui font que vous n'avez plus droit à faire valoir des conditions de travail pénibles quand vous portez des charges lourdes, quand vous travaillez dans des postures pénibles, quand vous êtes exposé à des produits chimiques et quand vous réalisez un travail répétitif.
Julie Landour.
Et ça, en fait, ce sont les critères les plus répandus. C'est-à-dire que ce sont les altérations du travail qui touchent le plus de la personne dans la société et qui font que on a un dispositif qui a été, au fur et à mesure, complètement vidé de sa substance et qui touche de moins en moins de travailleurs aujourd'hui, alors que la pénibilité reste extrêmement importante, tant on sait par ailleurs que les conditions de travail se dégradent fortement en France aujourd'hui.
Ce qui avait construit les indicateurs de la pénibilité a été défait.
A été défait. Voilà, je le dis...
Calmement.
Calmement, mais simplement, ça a été consciencieusement et efficacement défait.
Les accidents dans nos métiers, c'est la plupart dû à la fatigue. Quand on fait des semaines de 45-50 heures, voire 60 heures, quand on fait ça deux semaines, trois semaines d'affilée, au bout de la troisième semaine, c'est là où on va commencer à avoir des accidents et qui peuvent être graves. Pour les indemnisations au niveau des accidents de travail, parfois ça peut être faible parce qu'un intérimaire, il ne travaille pas forcément toute l'année. On arrive à des indemnités où on touche 10 ou 20 euros par jour. 10 ou 20 euros par jour, ça ne permet pas de vivre. Donc, on ne va pas le déclarer et on va continuer à travailler en cachant l'accident de travail ou en écoutant ce que nous dit l'agence ou l'entreprise dans laquelle on travaille. Pareil pour un arrêt maladie, hein. C'est quand on a 9 jours de carence avant d'être indemnisé, on hésite, on peut en réfléchir à deux fois, se dire si je m'arrête 9 jours, ma mission elle est terminée. On n'est pas comme un embauché où on sait que si on est en maladie, ça va être pris en charge sans souci, quoi. L'intérimaire, il ne peut pas se permettre ça dans la plupart des cas.
Si je le dis très vite, on avait jusqu'au début des années 90 des travailleurs qui continuaient d'exercer leur activité tout au long de leur vie dans la même entreprise. Et donc c'était plus simple de rattacher un désordre de la santé à l'exercice d'une tâche en particulier réalisée chez un employeur en particulier. Aujourd'hui, par exemple, dans le BTP, les travailleurs, ils sont de moins en moins salariés d'une seule et unique entreprise. Ils sont en intérim, ils ont tout un tas d'employeurs au cours de leur vie. Et ça devient alors encore plus difficile que ça ne l'était avant, et c'était déjà quelque chose d'extrêmement compliqué, de faire reconnaître le moment où, dans le parcours professionnel, on a pu être mis en contact avec un produit toxique qui déclenche une maladie. Et puis j'irai encore plus loin, c'est-à-dire que c'est rarement un seul et unique produit toxique qui déclenche une maladie professionnelle, c'est de plus en plus la combinaison de plusieurs produits toxiques utilisés conjointement qui produisent des réactions chimiques particulières et qui vont avoir une toxicité encore plus spécifique sur les corps. Et là aussi, cette complexité-là, elle va être de plus en plus difficile pour permettre de faire reconnaître certaines maladies professionnelles.
Et on est toujours amené à vouloir en faire plus que de raison, quoi. Parfois, il faut ralentir un peu et pas de dire il faut qu'on finisse ça aujourd'hui impérativement. Mais impérativement, finir ça aujourd'hui, ça peut dire on peut finir sa vie dans la journée aussi. Parce que moi, je dis, quand on me dit la retraite à 60 ans ou à 65 ans, il y a beaucoup d'ouvriers. Et j'ai eu un collègue, ou même deux dans la dernière année, arrivés à l'âge de 60 ans et il y a une année de retraite et ils sont morts. Donc quand on me parle de retraite à 65 ans, je dis moi ça tombe à 60 ans, je vais faire 6 mois de retraite et je serai 6 pieds sous terre. Et ça va même parfois plus vite. Mon dernier collègue là, avec qui j'ai fait le chantier, ça va faire plus de 6 mois qu'il est mort, mais il avait 42 ans. C'était une force de la nature et ça ne l'a pas empêché de partir. Il faisait des heures, il arrivait à l'atelier à 7h du matin, et ça veut dire qu'il partait de chez lui vers 6h du matin, et rentrait chez lui le soir vers 19h30, 20h. Faire des journées 13, 14 heures en étant payé 8 heures, c'est usant. Et on est obligé de continuer parce qu'il faut payer les factures. C'est ça, c'est un cercle vicieux, quoi. On se mord la queue à vouloir faire trop et accepter tout.
L'inquiétude du début du siècle 1910, ce que les ouvriers appelaient la retraite pour les morts, cette idée-là, la retraite pour les morts, finalement, elle continue 100 ans plus tard.
Elle continue d'exister, hein, encore aujourd'hui, à 62 ans, qui était l'âge de départ légal à la retraite, il y a un quart des travailleurs les plus pauvres qui sont déjà morts. Donc en fait, ce vieillir et ce temps de la retraite, il reste réservé aux travailleurs les plus qualifiés et qui sont souvent ceux qui ont les meilleures conditions de travail tout au long de leur vie.
La chasse aux temps morts, la nouvelle doxa. Chez Amazon, faut demander la permission pour aller aux toilettes et en période de rush, serrer la vessie. Ça, c'est la nouvelle lubie. Ma cousine travaillait dans un entrepôt à 40 degrés et elle a retrouvé une collègue toute bleue qui vomissait. Elle les aura ces trimestres pour maladie professionnelle ? Je crois pas. Elle sera partie avant. La mobilité, comme on dit. Mais bon, c'est quoi le boulot d'aujourd'hui ? Caissière, une tonne par jour, juste là, à la caisse du supermarché. Eh ben, ça rentre pas dans le compte pénibilité, à cause des temps partiels. Le mode de calcul, ça fait tomber en dessous du seuil requis. Les licenciements pour inaptitude médicale explosent forcément. Et c'est pas le chômage longue durée qui va arranger nos retraites.
La pénibilité, telle qu'elle a été construite jusque-là, elle a été avant tout construite selon des normes masculines, des représentations masculines du travail. Le fait, par exemple, de porter des charges lourdes. Le fait est qu'il y a tout un tas d'autres types de tâches qui abîment aussi le corps. C'est le cas des troubles musculo-squelettiques, où on fait intervenir les articulations de manière répétée, extrêmement rapide. Et ça, par exemple, ce sont des travaux, des types de tâches qui sont plus particulièrement exécutés par les femmes et qui sont moins reconnus. Plus difficile aussi à faire reconnaître dans le cadre du travail et qui font que les femmes ont plus de difficultés à faire reconnaître les invalidités, les dommages du corps causés par le travail.
Mars 2005.
Pour avancer, nous demandons donc aux veuves de bien vouloir se placer face au palais de justice.
Les veuves de l'amiante devant la préfecture de Dunkerque. Elles faisaient les 400 pas toutes les trois semaines.
Et au restant du cortège, de bien vouloir avancer de manière...
La caisse de sécurité sociale vient de me refuser le droit d'être veuve de l'amiante. C'est tout simplement ici.
La CPAM alors.
Voilà, de Dunkerque. Oui, c'est le contrôle médical de Dunkerque. Voilà. Enfin, il est reconnu en maladie professionnelle, mais il n'est pas décédé de ça. C'est une autre infection qui était venue. Et c'est faux. Et c'est à moi de prouver maintenant qu'il est mort de sang. Hein, alors on me demande une expertise, je leur réponds une expertise de quoi, de ses cendres ? Oui. Mais là, je viens d'abord la lettre recommandée. C'est une honte, une
c'est
honte.
C'est une honte, madame, tout à fait.
Une honte. Il avait que 59 ans, il n'avait pas le droit. Il a travaillé pour vivre et pas pour mourir. Bien à 14 sûr. Ans, il travaillait. Parce qu'ils auraient vu, parce que c'était pas un homme de 59 ans, c'était un homme de 80 ans. Qu'ils détérioraient bien vue d'œil. Il ne pouvait plus marcher, bientôt il était essoufflé, il ne pouvait plus manger. C'est honteux. Moi, je dis que c'est parce qu'on n'a pas le courage, mais quand ils sont sur leur lit, comme ça, occupés de décéder, de s'étouffer, on devrait les prendre des photos et leur mettre dans leur dossier. On devrait le faire. C'est parce qu'à ce moment-là, on est tellement pris par la douleur. Mais ils ne le voient pas, ça.
Silence, s'il vous plaît.
Allez, on est parti. Hein.
On est où, là ?
Ah ben, on est tout près, juste derrière, c'est pas la justice, là. On a fait la place de la République, on fait le palais de justice. Maintenant, ici, on va arriver sur le pont Royal. On va sûrement retourner à gauche pour retourner au palais de justice. Hein, on avait prévu de tourner pendant une heure, quoi. C'est malheureux à dire, mais il faut bouger pour se faire entendre, parce qu'on est tellement bas qu'on nous prend pas en considération, malheureusement. Alors, on a toujours le problème de handicap physique qu'on a aussi, qu'on est toujours essoufflé, fatigué. Il n'y a plus de souffle. Les poumons sont partis. Vivre avec ça dans la tête, c'est pas évident. Hein.
Moi, je suis l'ancien secrétaire du comité central Ascométal et ancien secrétaire du syndicat de CGT de l'usine des Dunes, qui a fondé en fait l'association Adva Sud pour la défense des victimes de l'amiante. Je peux vous dire, on voyait un marqué amiante sur les sacs, on voyait amiante partout. Mais nous, on nous disait c'était pour nous protéger, pour notre bien. C'était pour le bien de l'installation, c'était pour le bien des gens. On était habillé avec de l'amiante, de la tête aux pieds, des casques et tout, des gants, des chaussettes en amiante. Et on nous disait, comme ça, vous ne serez pas brûlés, vous êtes protégés. Je peux vous dire que dans l'atelier où je travaillais, il y a 95% du personnel qui est atteint par l'amiante.
Mais par exemple, la CGT, elle était partie prenante dans les usines. Ça fait quand même longtemps qu'on parle des dangers de l'amiante. Donc même les syndicats n'ont jamais pensé que ça pouvait être dangereux.
Non. Personnellement, j'ai été plus de 30 ans responsable CGT dans la sidérurgie. J'ai jamais vu un rapport qui nous disait attention, l'amiante. J'ai été dans les comités d'hygiène et de sécurité. Jamais un rapport, jamais un médecin, jamais un inspecteur du travail nous a dit attention, messieurs. Vous savez, on utilise des produits dangereux. On était ignorants complets.
Oui, tout à fait. C'est un sujet tabou. On n'avait pas le droit d'en parler. Disons que nos supérieurs, mon supérieur hiérarchique, le chef de service, on ne devait pas en parler, même que pendant un moment, sur les emballages, ils ont découpé les têtes de mort et les annotations pour pas mettre les gens dans l'embarras. Comme ça, les gens, ils ne voyaient pas que sur l'emballage, on disait que le produit était dangereux.
Et il y a encore de l'amiante à l'usine, ça c'est sûr. Il y a un plan qui est prévu pour cet été d'ailleurs, qu'ils font à l'arrache parce qu'il ne faut pas trop dépenser d'argent. Mais pour ça, il y a de l'argent pour désamianter, mais pas pour reconnaître le site. La solution, c'est de faire reconnaître le site amianté, que les gens puissent partir sans devoir démissionner. Là, on est obligé de démissionner. C'est pas normal, ça. Ce qui fait que les gens partent avec rien du tout. Donc ils ont travaillé toute leur vie, puis on les remercie en démissionnant, et puis on leur donne une obole, et va crever en paix, quoi. C'est juste de quoi payer ta caisse en bois. C'est un peu comme la silicose. On a attendu qu'il ne restait plus qu'une ou deux mines avec 200 mineurs pour reconnaître la silicose. Ils vont faire la même chose avec l'amiante. C'est parti pour.
Eh bien, sur cette place de la République de Dunkerque, nous vous proposons d'observer 2 minutes de silence. La première minute de silence en hommage aux milliers de victimes de la catastrophe d'Asie. La seconde minute pour toutes les victimes de l'amiante, en n'oubliant pas d'inclure les 280 morts supplémentaires tué par l'amiante depuis notre marche du 15 décembre 2004.
Puis il m'a dit avant de partir, tu sais ma grande, tu t'es battue en 99, mais t'as pas fini encore. Le jour que je serai partie, tu devras encore. Il dit, je peux te faire confiance, il a dit.
En 2001, parmi 5 docteurs, 1 m'a écrit en me disant, votre mari est décédé de l'amiante, faites les papiers. J'ai refusé de faire les papiers, je ne voulais pas qu'on le déterre. Les gens m'ont dit non, tu dois aller, il faut insister. J'ai fait ces papiers. En 2001, on écrivait à mon mari qu'il devait se présenter à la sécurité sociale. Mon mari était décédé. Il a reçu des papiers comme quoi sa maladie n'était plus prise en compte, qu'il n'était plus à 100% et qu'il devait reprendre son travail. Ça par contre, ils m'ont gardé le papier parce qu'ils ne voulaient pas que je le garde. Et j'ai eu un tort, c'est pas de faire une photocopie.
Vous vous rendez compte? Je vous assure que là, j'ai eu du mal, moi, à l'avaler ça. Oui, ils savent pas si on a quelque chose pour vivre.
Moi, c'est bien que moi, j'ai toujours travaillé, mais tout est coupé, là. Comment je fais? Et les personnes qui ne travaillent pas, qui dépendent de leur mari, qui n'ont vu que le salaire du mari, comment ils font, ces gens-là? Il y a le loyer, il y a tout à payer. Il faut manger, il faut vivre. Comment on fait? Parce qu'ils coupent tout, Là, tout est coupé, ils attendent.
On mendie. Moi, je me rappelle quand je suis allée la première fois au tribunal de Dunkerque, et que M. Plutin, vous vous rappelez, on nous a carrément dit qu'on mendiait, alors que c'est pas du tout ça. On réclame notre droit, notre dû.
Ici le franc-tireur en route de pêche. 3e jour, tout va bien à bord. À tous les chalutiers de Concarneau, Pamard, Guilvinec et Saint-Guénolé, salut.
Ici le bourlingueur,
On pêche face à l'Irlande, à Johannesburg. Bien reçu. Bonjour Pierre. Salut à tous. Ici la pêche est assez bonne. Pas mal de merluchons.
Attention gars. Dans ton métier, le chemin de l'usine change chaque mois. La mer n'a pas de route. Le soleil flèche la direction. Et la nuit, c'est une étoile. Calme ou tempête. On verra bien, gars.
Madame Toirin.
Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Madame de Toirin.
C'est toute une famille qui travaille.
Ah oui ?
Oui.
Vous ?
Moi, j'ai ma fille qui a repris... Ma fille a repris la pêche, en fait. Avec mon beau-fils, qui est pêcheur aussi.
Et votre mari, qui était pêcheur.
Et mon mari était pêcheur, voilà.
Mais... C'est difficile d'arrêter, on vous voit sur le marché, toujours.
C'est pas que c'est difficile, c'est qu'on est obligé de continuer. Puisque un conjoint collaborateur, il n'y a pas de retraite. Quand vous arrivez en retraite, on vous dit, ben, il n'y a pas de retraite. Donc je me suis mis en auto-entrepreneur pour vendre le poisson des enfants. Et pour me faire ma retraite quand j'aurai 67 ans.
Et là, vous avez quel âge ?
64.
Et ça ira à la retraite ?
Ça va être dur.
Pourtant, vous ne chômez pas. Hein ?
Non, non. Non, mais bon, c'est plaisant de voir du monde... Discuter avec les gens.
Vous vendez bien, vous êtes...
C'est pas mal. Je suis connue. Ouais. Ça fait... Les marchés, ça fait 40 ans que je fais ça.
Vous portez beaucoup.
Ah oui. Ah oui, des choses lourdes, oui. Oui. Les bacs de poissons, les bacs de crabes, les bacs de glace qu'il faut mettre sur l'étalage, oui, c'est... J'ai été opérée du dos, donc le dos n'avait pas tenu.
Jamais sur le bateau ?
Quand j'étais plus jeune, oui, si, j'allais avec mon mari. Maintenant, les enfants, non, mais avec mon mari, oui. Voilà.
C'est seulement votre mari qui cotise.
C'est mon mari qui cotise. En 84, on a eu le droit de se mettre, pas salarié, mais on payait des charges pour nous, pour pouvoir avoir une petite retraite. Mais les charges étaient tellement hautes, ça faisait l'équivalent d'un SMIC à l'époque, que soit à la pêche, on n'est pas non plus... c'est pas une fortune. Donc soit je donnais à manger à mes enfants, ou je payais les factures, ou soit je cotisais pour moi. J'ai fait le choix. Peut-être un mauvais choix, mais ouais, je fais le choix.
Vous avez fait le choix pour votre fille aussi, puisqu'aujourd'hui, elle peut travailler avec vos outils.
Disons, on les a lancés, mais ils se débrouillent bien. Eux se débrouillent bien.
Donc votre fille, elle est en mer.
Elle l'a été aussi, mais maintenant, entre monter les filets, elle fait les papiers, s'occupe des enfants, ça fait pas mal de travail. Et elle va aussi, elle va en mer quand il faut enlever les araignées des filets, ou quand il faut trier le poisson, quand il a pêché du poisson, qu'il faut les trier, les ranger, bon, ben, elle est toujours là, quoi.
Mais là, elle se déclare, votre fille.
Ah oui. Mais si vous voulez, là, ma fille, c'est différent, parce que ma fille, c'est le chef d'exploitation, en fait, en quelque sorte. C'est la patronne. Et c'est mon beau-fils qui est employé. C'est pas plus mal, ouais. Mais je leur avais dit, à toutes les filles, je leur avais dit, surtout, si vous allez à votre compte avec votre mari, surtout, déclarez-vous. Faites pas comme moi. Quand peu.
Parce que sinon, c'est difficile de mettre le mari par-dessus bord.
Oh non, on les garde quand même un peu. Ça sert de temps en temps.
Donc dans 3 ans, la retraite.
3 ans, la retraite, oui.
Pour de bon ?
Je sais pas. si je peux aider ma fille de temps en temps, parce que ma fille reprendra les marchés. Et si je peux aider de temps en temps, ouais, j'irai l'aider. Ça verra bien.
Rien, rien.
manifestation des agricultrices à Saint-Brieuc.
80 heures par semaine. Pas de vacances. Pas de dimanche et surtout ça.
Les gosses à l'école, il faut faire l'école le soir et tout. On n'a pas le temps de rien faire maintenant.
Mais 1983.
Il s'agit pour vous de prendre le relais des hommes.
Relais des hommes et puis montrer qu'on existe, qu'on travaille très dur, et que notre travail n'est pas reconnu. Alors et que notre salaire, il ne faut pas en parler.
700 au début de manifestation, 1500 au moment de la dispersion, toutes ces femmes d'agriculteurs s'étaient donné rendez-vous à Saint-Brieuc pour exprimer leurs angoisses. « Agissez au lieu de condamner la violence », a dit une oratrice. Une autre femme se demandant même si les pouvoirs publics ne voulaient pas transformer la région en champ de mine d'uranium ou région touristique.
« Il faut crier à la face du monde que malgré tout le travail accompli, malgré tout de notre bonne volonté, malgré tout le courage dont on a fait preuve, on exploite en haut lieu notre force de productivité et on se moque de notre désespoir. Nous ne rêvons pas de luxe, mais nous voulons pouvoir vivre décemment. Nous ne voulons pas que nos enfants s'expatrient pour aller grossir le flot des chômeurs parisiens.
Avec la même fermeté, elles ont réclamé le droit d'être reconnues agricultrices. Des dossiers restent en attente. Statut de co-exploitante, retraite complémentaire et remplacement en cas de maternité. Elles veulent faire aboutir ces revendications.
Travailler en famille, ça veut dire quoi ?
Ma femme allait sur l'exploitation aussi, elle travaillait, elle venait dans les champs, elle coupait les choux, elle conditionnait, elle participait largement à l'activité de la ferme.
Ici, si les femmes travaillent.
Oh oui, toutes.
Je vais vous dire quand même, ma femme a travaillé à l'extérieur. Quand je l'ai connue, elle était secrétaire.
Roland.
Pendant 5 ans.
Et Marguerite.
Et puis après, je me suis arrêtée parce que de ce temps-là, c'était comme ça. On ne se posait même pas la question, on s'arrêtait. Et on restait avec son mari. Voilà. Plus ou moins soumise, mais on restait.
Oh, attends.
On n'a pas eu la même vie, je n'aurais pas eu la même retraite non plus, ça c'est sûr.
Pourquoi ?
Parce que j'aurais été plus importante. Maintenant, j'ai 1100 euros de retraite, dont 200 euros qui me viennent de... Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont 1100 euros de retraite par ici.
Parfois, c'était quand même plus pratique de ne pas déclarer deux personnes à la ferme. Parfois, dans certaines familles, on n'en déclarait qu'une.
Oui. Enfin, c'est vrai qu'à une époque, on déclarait le minimum. C'était pas quand on s'est marié, on n'avait pas ça représentait pas des sommes.
Non.
On réalisait pas que ça allait peut-être.
Vous savez, on parlait même pas de la retraite après. On ne pensait même pas.
On sortait d'une génération de nos parents qui n'ont pas eu cotisé quoi. Et qui, ma foi, bon, ils ont vécu quand même, et ils ont été, mais ils n'avaient pas de couverture sociale, ils n'avaient pas de, c'était quelque chose d'important. À notre époque, de notre mariage, dans les années 60, 66, on s'est marié en 65,
oui. On
a commencé à cotiser, pas beaucoup, mais c'était toujours assez, parce que on trouvait toujours assez cher. Et c'est après, dans les années, quand même, je sais pas, moi, toi, tu dirais mieux que moi, c'est toi qui gère les papiers, donc, qu'on a commencé vraiment à cotiser d'une façon plus importante.
On a toujours cotisé, mais peu au départ.
Peu au départ.
Et puis, plus ça allait, plus ça augmentait. Et puis, moi, je suis devenue conjoint collaborateur dans les années 90, par là, simplement. Mais avant, ça ne nous était même pas proposé.
Tu étais délégué à la MSA.
Oui.
Et c'est là que tu as vu à peu près comment il fallait faire pour. Donc, tu as acheté les points, quoi.
Voilà, j'ai acheté les points. Avant 2000, on m'a proposé un rachat de points que j'ai accepté. Et puis, qu'on m'a proposé d'étaler dans le temps, mais qu'on a préféré payer tout de suite. Et puis, ça nous a quand même apporté pas mal de. Enfin, j'ai commencé à 800 euros de retraite, vous voyez.
Qui n'est pas énorme pour vous, mais enfin bon, c'est comme ça, quoi. Hein.
Mais de cela, on peut faire acheter des terres, acheter que je cotisais.
La question qui se pose parfois dans ces termes-là, est-ce qu'on transmet un peu plus de ressources patrimoniales ou est-ce qu'on se déclare
en tant que femme, en tant que mère, en tant que femme et en tant que mère.
Mais il me semble que la question se pose même avant même de penser l'enjeu de la transmission. Ça se pose au moment même de construire les budgets familiaux. Est-ce que je préfère me déclarer et payer des cotisations pour moi individuellement, ou est-ce que je préfère payer des vacances à mes enfants ou même améliorer un peu l'ordinaire de l'alimentation? Et les femmes souvent raisonnent comme ça dans leur manière d'ailleurs de compter, et on le voit dans tous les couples. Hein. Ce qu'on voit dans la façon dont les flux économiques circulent dans les familles, c'est que les hommes ont tendance à beaucoup plus penser en termes de protection individuelle, et on constate très souvent que les hommes épargnent beaucoup plus que les femmes et épargnent beaucoup plus pour eux, alors que les femmes vont beaucoup plus mettre leurs ressources, et y compris leurs cotisations par exemple, à la pleine disposition de la famille. Ce qui crée des écarts considérables aussi au moment d'arriver à la retraite et au moment de regarder ce que chacun pour ensuite rentrer dans cette vie où les revenus baissent assez considérablement.
Il me disait toujours qu'on n'avait pas d'argent, il vous faisait bosser comme une nègre. Puis arrivé là, vous voyez qu'aujourd'hui, il construit quand même une maison de 400 mètres carrés, il a quand même de l'argent. Je me dis, il a gardé tout le pognon, je ne sais pas où c'est qu'il l'a fourré, puis là, il est en train de le fourrer là-bas.
2006, en ménage, sois belle et nettoie.
C'est l'horreur, hein. Alors c'est là-dedans, j'ai élevé 50 petits veaux. Il n'y a plus rien, hein, il n'y a que du matériel. Tout est vieux ici, hein. Regardez la porte. Je me demande comment je vais faire pour réparer ma porte. Il va falloir mettre la maison à nu. Mes garçons me disent, maman, fous le camp là-dedans, fous le camp là-dedans. Reste pas là, mon Dieu. Ils ont peur pour moi que je reste ici. Ils me disent, il y a trop de travail. Mais bon.
Vous avez toujours travaillé à la ferme ?
J'ai toujours travaillé à la ferme. Disons qu'avant, j'avais 50 petits veaux dans le poulailler. Et j'élevais mes petits veaux matin et soir, plus mes trois enfants. Mais c'est vrai que 30 ans passés dans une maison, ça ne s'efface pas comme une ardoise. Mais bon, il faut se dire que c'est une partie de notre vie, c'est tout. Il était très libre, il faisait toutes ses réunions deux, trois fois par semaine, quand il voulait, comme il voulait. Et puis, il a mis les pieds ailleurs il y a très longtemps. Et puis bon, il a choisi de partir en préparant bien comme il faut tout. Hein. Et comme j'avais découvert qu'il avait mis les comptes à zéro, c'est net, c'est clair, il faut se défendre quand c'est comme ça. Faut pas dire je m'enfonce. Hein. Parce que si vous voulez, il a établi que la ferme à un revenu très bas, 11 000 euros. Alors 11 000 euros sur une ferme de 200 hectares, c'est quand même un peu aberrant d'annoncer des pareils chiffres. Et moi, mes chambres d'hôtes, il a annoncé que j'avais 25 000 euros de revenus. Mais c'est mon revenu brut. Ce qu'il annonce pas, c'est qu'il y a plein de réductions à faire. Et quand je me suis aperçue que tout était déduit sur la ferme, là, vous vous dites, il y a tricherie. Vous vous réveillez. Vous êtes pas nouilles. Même si vous êtes nouilles, vous vous réveillez. Mais on donne l'argent à l'autre, on sépare, on fait sa moitié. On veut pas tout pour soi. La vie, c'est pas ça. Hein.
Le système de retraite tel qu'il a été construit en 1945, il s'appuie sur deux piliers principaux qui sont le travail. C'est quand même principalement le travail qui vous permet de fabriquer tout au long de votre vie des droits économiques et sociaux, et notamment des droits à avoir une pension de retraite. Et puis, c'est le second pilier, c'est la famille. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un tas de droits qu'on appelle les droits familiaux qui vous permettent aussi d'avoir accès à la retraite, mais qui sont en fait régulièrement combinés aux droits en matière de travail. Et puis tout ça a été construit en 1945 dans cette idée que les familles étaient des familles nucléaires, que les couples restaient ensemble et que on était dans un ordre où les ressources étaient fongibles. Ce que monsieur gagne est mis en commun avec madame et tout ça va se poursuivre jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ça ne marche plus, ça, aujourd'hui. Les couples se font et se défont, se refont. Et donc, tous ces droits familiaux en matière de retraite n'apportent plus aux femmes ce qu'elles pouvaient espérer toucher à la retraite. Je pense par exemple à la pension de réversion, qui est un droit qui est associé au mariage. Donc, dès lors que vous vous mariez, vous pouvez avoir accès à une partie de la pension de retraite de votre conjoint à son décès. Ça marche quand vous êtes marié, ce qui est le cas de moins en moins de couples aujourd'hui. Et ça marche aussi si vous n'avez pas divorcé, puisque cette pension de réversion, au mieux, elle est partagée entre les conjoints et ex-conjoints survivants, mais pas dans tous les régimes, où elle est par ailleurs associée à des conditions de ressources et à des conditions d'âge. Donc, penser que c'est une bonne idée que de se marier, s'occuper de ses enfants et de peu travailler, ça peut tout à fait être un point de vue idéologique et une manière d'avoir envie de construire sa vie, sauf que, si je le dis un peu cyniquement, ça n'est pas rentable économiquement et socialement.
Cet après-midi, au siège de la CRI, la Caisse de retraite interentreprise, les journalistes ne sont pas les bienvenus.
Vous pouvez sortir, s'il vous plaît.
Bonsoir.
Oui, s'il vous plaît.
Et pourtant, cette association qui gère des retraites complémentaires a bien des choses à se reprocher.
Janvier 2000, le rapport IGAS.
Les inspecteurs de l'IGAS relèvent tout un système de financement occulte entre la caisse de retraite et les 5 grands syndicats. Un système négocié en secret par le directeur de la CRI au plus haut niveau, syndicat par syndicat. Au total, les syndicats se seraient ainsi partagés plus de 34 millions de francs. En cause, des notes de frais astronomiques et surtout des emplois fictifs. 25 syndicalistes qui n'avaient ni bureau ni téléphone et qui n'étaient joignables qu'à leur domicile.
À l'initiative de ces investigations, la ministre de l'Emploi n'a pas voulu les commenter. Le préjudice financier pour les cotisants s'élèverait à plus de 4,5 millions de francs. Le rapport de l'IGAS a été transmis au parquet de Nanterre.
Bon, c'est un rapport nauséabond, c'est toujours malsain quand des choses comme ça commencent à bouillonner. Ceci étant, ça pose un vrai problème, qui est celui du financement du paritarisme. Et si ça peut être l'occasion de mettre des règles à plat, transparentes pour ce financement, c'est pas plus mal.
Dans ce système, on trouve même une filiale de la caisse de retraite qui a acheté 2 chevaux pour plus de 600 000 francs. Les inspecteurs de l'IGAS ont noté que le directeur général de la CRI est justement un passionné de sports équestres.
Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu justement construire un grand régime général avec des taux de cotisation vieillesse déplafonnés, parce qu'il faut savoir que les taux de cotisation vieillesse sont plafonnés.
Nicolas Castel.
Et si on n'avait pas fait ce plafonnement, eh bien là, on aurait eu un grand régime général disposant de nombreuses ressources.
Parce que des hauts salaires auraient cotisé.
L'enjeu, c'est ça, c'est le plafonnement des cotisations sociales, c'est pour enfermer le régime général, les pensions, à un certain niveau, pour laisser à d'autres acteurs, des acteurs en l'occurrence du paritarisme, la possibilité de développer une retraite qui sera dite complémentaire. Donc il y a des enjeux politiques. C'est soit déplafonnement des taux de cotisation, disparition des régimes complémentaires et donc une pension maximale, voilà. Soit vous avez le plafonnement, et là, c'est plus compliqué, quoi. Vous avez plusieurs institutions en bataille, les unes avec les autres, des régimes complémentaires, des régimes de base.
CIPAV, quand la retraite tourne au cauchemar.
Ce soir, enquête sur une caisse de retraite complémentaire qui marche sur la tête. Sa gestion tourne au cauchemar. Pensions non versées, cotisations injustifiées. Ses affiliés ne savent plus à quel saint se vouer.
C'est des gens qui tournent en rond, se cognant la tête contre les murs. Ils dorment pas. On a des gens qui se mettent sous neuroleptique, qui doivent prendre des somnifères. C'est Kafka, en fait.
Comment en est-on arrivé là? Que révèle cette affaire de la situation des caisses de retraite en France? Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Jacques.
Alors vous avez enquêté sur une de ces caisses de retraite qui s'appelle la CIPAV. Vous vous êtes rendu compte qu'elle a un fonctionnement hallucinant, on va le voir avec vous, mais d'abord expliquez-nous la CIPAV, qu'est-ce que c'est précisément?
Eh bien ça n'est pas rien, c'est la plus grosse caisse de retraite complémentaire des professions libérales. À l'origine c'était une caisse d'architectes, mais depuis les années 70 elle accueille aussi plus de 300 professions libérales. Et ça va des moniteurs de ski aux ostéopathes en passant par les artistes graphiques ou encore les les techniciens audiovisuels.
Oui, sans compter que depuis 2009, eh bien, elle accueille aussi une nouvelle profession assez particulière.
Oui, les auto-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs qui, vous le savez, sont de plus en plus nombreux.
Oui, mais pour avoir une idée plus précise, tout ça, ça fait combien de cotisants au total ?
Plus de 600 000 personnes et on estime que d'ici 3 à 4 ans, ces affiliés à la CIPAV dépasseront le million.
Oui, alors c'est effectivement très important, mais autre précision importante, Anne-Laure, ces personnes n'ont pas le choix, elles doivent s'affilier à cette caisse, la CIPAV, parce que prendre une caisse de retraite complémentaire, mais en France, c'est obligatoire.
Eh oui, sinon vous auriez une retraite de misère. La retraite de base seule, ça représente à peu près 50% de votre salaire annuel moyen. C'est pour ça qu'on est tous obligés de cotiser à une caisse complémentaire.
Sauf que la CIPAV, elle a une particularité, Anne-Laure, a une particularité très embêtante, c'est qu'elle marche sur la tête.
Jugez plutôt. Narcisse Steiger est invalide, handicapé à 80%. Il a cotisé pendant plus de 20 ans à la CIPAV en tant que travailleur indépendant dans les arts graphiques. Il habite près d'Orléans et il réclame en vain qu'on lui verse un jour sa retraite complémentaire.
Je n'ai toujours pas de retraite de la part de la CIPAV depuis, ça va faire 14 mois. Malgré courrier, appel téléphonique, aide d'assistante sociale, défenseur du droit, aucune réponse de la CIPAV. J'ai envoyé une mise en demeure, aucune réponse, rien du tout. Comme si la CIPAV n'existait pas.
Mais les choses ont quand même bougé à partir de 2014. La Cour des comptes met alors son nez dans la gestion de la CIPAV et elle découvre toute une série d'irrégularités.
Oui, à tel point d'ailleurs que la CIPAV va devenir l'exemple à ne pas suivre.
Preuve en est, en février 2014, le président de la Cour des comptes, Didier Migaud lui-même, intervient devant l'Assemblée nationale et il dénonce l'incurie de certains organismes, dont la CIPAV.
La qualité du service rendu est déplorable. La Caisse n'est capable de liquider à bonne date les pensions des nouveaux retraités que dans un cas sur deux, alors que cette proportion est de 96% pour le régime général de sécurité sociale.
Aujourd'hui, on sait, avec ce que l'on a travaillé, combien est-ce que l'on va gagner sur le régime principal du régime des salariés ou de la fonction publique.
Plafonné.
Passer au régime à points, on ne saura plus.
Julie Landour.
Et on ne sait déjà pas pour un certain nombre de caisses, les complémentaires dans le régime salarié ou la fonction publique, et pour un certain nombre de caisses chez les indépendants aussi.
Avec le point, la notion de point, on ne peut pas du tout comprendre comment se calcule une retraite complémentaire. C'est un souci presque démocratique.
C'est un souci démocratique et ça l'est d'autant plus en fait que la valeur du point, elle change au cours du temps. Donc vous allez avoir des moments où le point valait tant, d'autres où il va valoir tant, et puis d'autres où ça va encore changer. Et puis c'est extrêmement technique en fait. C'est donc difficile pour la plupart des personnes de comprendre comment effectivement cela fonctionne exactement. Ce qui était un peu toute la difficulté et toutes les mobilisations de l'hiver 2019-2020, on ne savait pas finalement qui déciderait et comment serait indexée cette valeur du point. Alors, la réforme n'est pas advenue, on n'est pas à l'abri du fait qu'elle advienne dans quelques années et ce sera effectivement un enjeu crucial.
On fait peur aux gens avec un système très complexe, des règles très complexes. On fait aussi peur aux gens en créant du déficit, finalement, avec des exonérations qui sont complètement injustifiées et qu'on empile chaque année. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a... Thomas Piketty.
D'un côté, on fait perdre des cotisations en retraite au système, puis après, on va crier au feu en disant « Ah là, c'est terrible, regardez le déficit, il va falloir se serrer la ceinture, il va falloir tous travailler très tard. » C'est juste pas sérieux de jouer comme ça avec la retraite des gens.
En 2019, les pieds sur terre.
Là, on est dans un passage assez moche, quoi. J'ai l'impression que c'est les Black Blocs qui sont là. Il y a des fumées, des trottinettes qui brûlent. Il y a beaucoup de gens casqués, masqués. Ça craint pas mal. Il y a une grande violence, quand même. Une atmosphère violente, je trouve. Autour de la place de la République, tout est bouché.
Ah, juste à côté, là. Je sais pas.
Voilà.
Ils sont là, ils sont planqués, là. Les keufs. Et ils balancent des LBD, là. Juste, voilà, paf, de là.
Ils empêchent la manif de démarrer. Comment on va faire pour remonter la rue si nous, on peut pas passer et qu'ils lancent déjà des LBD.
Ils empêchent des laisser passer, là.
Ok, il y a peut-être des gens qui veulent aller à l'affrontement, mais il y a des milliers de gens derrière, là, qui ont envie de défiler pour dire qu'ils en ont ras-le-bol de cette politique qui nous bouffe. Alors, on est des travailleurs pauvres, on va être des retraités pauvres, je vais mourir peut-être sur les trottoirs, je vais avoir peut-être 850 euros par mois. Qui peut vivre avec 850 euros par mois? Il faudrait déjà relever les salaires, hein. On avait des salaires décents, on aurait des retraites décentes. Et la retraite à par points, c'est de la merde. Nous, on est des fonctionnaires, ça fait longtemps que le prix du point, il est gelé, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu d'augmentation de salaire. Alors, vous pensez bien que quand le gouvernement, il aura la main mise sur la valeur du point, il va nous enfoncer dans la misère. Là, ils veulent tout nous piquer. Prenons aux riches, redistribuons et arrêtons de nous faire croire que c'est nous, les petites gens, qui devons toujours payer. On en a marre.
France Inter, 2010.
Philippe Lefebvre.
Ils n'ont pas confiance non plus dans les réformes, finalement, parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il y a un vice caché. On dit on va pas toucher au niveau des pensions, mais finalement, elles baissent. Et on touche pas au régime par répartition, mais finalement, on les incite à faire de la capitalisation. Donc on a l'impression qu'il y a effectivement, oui, toujours quelque chose de caché derrière la réforme.
Thomas Piketty.
Bah, parce qu'on a ce jeu croisé de multiples paramètres. Quand on bouge, en fait, il y a l'âge de départ, il y a le nombre d'années de cotisation, il y a le taux de la décote, le taux de la surcote. Mais franchement, qui y comprend quelque chose? Ce sont des problèmes compliqués. Simplement, on les complique encore plus en les traitant séparément pour différentes professions, pour différents secteurs, avec des règles complètement différentes, par exemple dans le public, dans le privé, sur la prise en compte de ces années, qui sèment encore plus la confusion dans les esprits. C'est-à-dire que une des raisons, pour finir, pour lesquelles les gens n'ont plus confiance dans notre système de retraite, c'est qu'ils ont toujours l'impression, en gros, que leurs voisins s'en tirent mieux qu'eux, ont des meilleurs avantages qu'eux, parce que les gens ne comprennent pas les règles en vigueur, parce que sur toutes ces questions qui sont très importantes, on invente en permanence des nouvelles règles, des nouvelles solutions, différentes suivant le secteur, votre secteur d'activité qui peut quand même changer en cours d'une vie. Comme... Ouais. Donc je pense qu'un préalable, si on veut rétablir un certain consensus autour de ces règles, c'est d'aller vers un régime unique ou une maison commune des retraites, comme d'autres syndicats comme la CGT y font référence. Enfin, en tout cas, rebâtir un droit qui soit vraiment le même pour tout le monde. Sinon, le sentiment d'équité est battu en brèche en permanence. Je pense que c'est pas de la démagogie de dire qu'on a atteint des degrés de complexité qui ne sont tout simplement plus tenables. Et qu'à un moment, il faut refonder l'ensemble.
Merci à Julie Landour et Nicolas Castel. Roland et Marguerite, Madame Toirin. Le texte de Rosita est adapté de l'ouvrage « Le temps d'apprendre à vivre » du député de la Somme, François Ruffin. Lecture, Élodie Vincent. Prise de son, Christophe Michou, Dofar Guéride. Mixage, Valentin Azan. Documentation, Anne-Lise Signeret, Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Vonne Abodivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Baudot. Ciel, ma retraite, une série documentaire de Nejma Bouakra, réalisée par Franck Linon.
La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, la retraite, la retraite. Du bricolage, des mots croisés, et puis du sport, et aussi du souci en colère. Qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Les machines s'envoient en l'air dans l'église. Qu'elles parlent fort à table, nous mettent minables au crâne. Et qu'elles repassent des
On se battra pour la garder, la retraite.